Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Laissons de côté clichés et préjugés que nous véhiculons depuis la révolution bolchevique et affinons nos idées sur la Russie contemporaine grâce à une série de portraits d'hommes et de femmes ayant pris pour beaucoup d'entre eux une part active dans la vie de leur pays. Dans cet ouvrage présenté aujourd'hui, des personnalités souvent éminentes contribuent par leurs propos à nous faire saisir la diversité de cette population qui navigue entre dissidence et fidélité au stalinisme, entre désir d'ordre et idéal de liberté et de justice, entre sentiments pro-européens et orgueil de la grandeur de la Russie. Tous pointent, certains non sans regret, les changements notables depuis l'accession au pouvoir de Gorbatchev et la chute du mur. Et c'est sur ces changements que se penche Marc Répin dans son ouvrage « Métamorphose de la Russie depuis 1953 » édité par les ateliers Henri Dougier. Marc Répin, que j'ai le plaisir d'accueillir. Marc Répin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été correspondant permanent à Washington et à Rome pour Radio France. Entre-temps, vous aviez la direction de la rédaction de France Culture et de France Musique. Et depuis 2012, vous étiez correspondant permanent en Russie et dans les pays de l'Est. Alors, on comprend dès lors votre intérêt, votre attachement même pour ce pays. Et les rencontres que vous avez dû faire ont certainement contribué à mieux saisir la complexité, la richesse de cette population importante. Alors, vous avez choisi 1953, Métamorphose à Russie depuis 1953, c'est-à-dire la mort de Staline. C'est ça, c'est la date clé ?
Absolument, absolument. Ce sont les contraintes qu'un auteur doit subir, les règles qu'il faut respecter, que vous impose un éditeur. Un éditeur qui est quelqu'un d'amoureux, de passionné, et qui a décidé de lancer cette collection. C'est le cinquième livre de la collection. Il y a eu les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, et arrive la Russie. Donc, j'aurais bien aimé écrire 300 pages. Je les avais pratiquement, d'ailleurs. Mais bon, il y a une autre contrainte. Il faut que le bouquin soit lisible. Et donc, c'est un livre qui fait 160 pages.
Et qui se lit très très bien, très agréablement.
Eh ben, je vous remercie. C'est surtout un livre qui doit être un livre d'entretien, parce que nous sommes généralement des journalistes à écrire les livres de cette collection Métamorphose, d'entretien effectivement de 10-12 personnes qui ont joué un rôle ou qui ont été témoins d'un grand événement dans la vie de leur pays et qui racontent l'histoire à travers leur témoignage. Et c'est important, autrement dit, c'est ce que nous, journalistes, utilisons tous les jours pour acquérir des connaissances, analyser des situations et rendre ça au public, aux auditeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs. Là, ce qu'on cherche, ce que j'ai cherché, c'est aussi à offrir ça à un lecteur, la possibilité de lire des interviews longues, de se faire son opinion lui-même, sans faire appel ni à l'historien, ni à l'expert. On se place entre les deux, les faits sont là. Il y a des gens dont je ne partage pas du tout les opinions, mais je suis là pour les présenter, c'est mon boulot.
Bien sûr. Alors, vous avez mis en couverture, ou votre éditeur, la photo de Poutine à la barre. À la barre d'un bateau. Quoique je ne vois pas le bateau, je vois des murs, mais enfin, il y a une barre.
Alors voilà, c'est une photo que j'ai prise moi-même à Yalta, en Crimée, là où il y a eu les fameuses rencontres à l'époque de Staline, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve que la Crimée est un pays, une région, qui était autonome d'ailleurs, qui appartient à l'Ukraine, qui a été annexée par la Russie.
Oui, et un de vos personnages, une des personnes interviewées en parle longuement.
Voilà. Et la Crimée est à la source de tous les ennuis de la Russie aujourd'hui, cette annexion en tout cas. Et donc, j'y suis allé avec une de mes consoeurs, on a essayé d'interroger les gens, de voir ce qu'ils en pensaient. Il se trouve qu'il y a eu une sorte d'envahissement de la Crimée par de nouveaux Russes, il y en avait déjà énormément, il y a beaucoup de militaires qui sont arrivés là. Puis on pratique une communication qui est une communication de propagande, c'est-à-dire beaucoup de ce qu'on appelle le street art, avec des portraits géants. En Tchétchénie, c'est la même chose. Vous avez des portraits de Poutine partout. Et ben là aussi, c'est un portrait de Poutine très caricatural, avec ses lunettes reflets, vous savez, dans lesquelles vous voyez un château très connu là-bas. Il est à la barre, à côté de lui, on le voit mal sur la couverture. Il y a un Sukhoi qui passe, on est au moment de l'intervention, du début de l'intervention en Syrie. Voilà, c'est toute une mise en scène sur le patron.
Montre son air viril.
Il est costaud et c'est un homme...
Il sait où il va.
qui tient la barre.
Qui tient la barre. Alors, vous-même, en exergue de votre ouvrage, vous notez un changement notable d'atmosphère quand vous quittez la Russie en 2016.
C'est-à-dire, j'ai noté une grande évolution entre mon arrivée et le départ. C'était une période de métamorphose, comme nous le demande notre éditeur, et c'était la métamorphose la plus importante qui a traversé la vie des Russes ces dernières années. Et Dieu sait si ils ont connu une histoire agitée, on la connaît, on l'a partagée avec eux souvent. Et mine de rien, à partir de 2012, le régime politique s'est durci. Il est arrivé toute une série d'événements qui nous a permis de voir les responsables politiques, économiques aussi, se raidir face à l'adversité, tenir un langage extrêmement nationaliste et conservateur, ce qui n'était pas le cas avant, depuis la chute de l'URSS. Et comme vous le savez, ça a été aussi le cadre, cette période, en 2014, de la crise ukrainienne, d'une forme de guerre civile, il faut appeler les choses par leur nom,
bien sûr,
et de l'annexion de la Crimée, dont on parlait à l'instant. Et quand je suis parti, effectivement, j'ai trouvé que les Russes, et je ne suis pas le seul à être de cet avis, les Russes eux-mêmes, mes amis Russes, j'en compte pas mal, mes amis étrangers qui vivent en Russie, font tous la même observation, une sorte de lourdeur, de pesanteur a envahi la vie quotidienne. On se sent beaucoup moins heureux et optimiste qu'on l'a été en Russie au début des années 90.
Alors oui, justement, vous dites que la population, moi je la croyais avenante, chaleureuse, mais vous dites que ils ont une mentalité d'assiégés, je cite.
Oui.
Peut-être, je pensais, suspicion, méfiance les uns des autres, non ?
Il faut bien me comprendre quand j'écris ça. Je l'écris avec des virgules, en faisant très attention.
Oui.
J'essaie d'associer les tendances de ce peuple. Bon, très modestement, encore une fois, je suis un journaliste, je ne suis pas un historien ni un expert. C'est un peuple qui est dur. Mais il faut regarder son passé. Vous savez que l'identité d'un peuple est définie par son histoire. Et son histoire a été extrêmement difficile. Dans toutes les familles, on a souffert. On a des membres qui sont allés en camp.
On le sent dans les témoignages que vous prenez.
Et tout ça, il y a des gens qui ont été fusillés dans chaque famille. Il y en a qui ont souffert du stalinisme.
Emprisonnés.
Staline a directement ou indirectement tué... on parle de 20 millions, mais c'est probablement plusieurs dizaines de millions d'individus, de façon totalement injuste, pour faire le ménage, pour tout ce qu'on voudra. Et cela avait installé dans la mentalité des Russes une sorte de résignation et de crainte pendant longtemps à l'époque soviétique. On ne rêvait pas des lendemains qui chantent, parce qu'on ne voyait jamais arriver le lendemain de toute façon. Et puis tout ça a disparu avec l'implosion de l'Union soviétique, et puis a tendance à réapparaître maintenant.
Il y avait eu une bouffée d'oxygène.
Oui, on peut le dire. Il ne faut pas oublier que, et on le dit dans un des témoignages, que les années 90 ont aussi été des années horribles. Oui. C'était le libéralisme absolu. Les gens perdaient leur argent. C'était une époque où tout était permis, où des milliardaires s'enrichissaient, où les pauvres devenaient plus pauvres, où les retraités n'avaient plus d'argent pour vivre et faisaient la queue à la sortie des grands hôtels à Saint-Pétersbourg et à Moscou pour mendier. C'était terrible, terrible, terrible.
Oui.
Ils avaient perdu leur dignité, les Russes en souffraient énormément. Et c'est malgré tout... alors on leur parlait évidemment de démocratie, de droits de l'homme, eux pensaient surtout à sortir de la crise économique à ce moment-là. Mais malgré tout, l'argent est revenu, Poutine est arrivé dans cette période-là, il ne faut pas l'oublier, quand le baril est passé à 100 $, 110 $ même. Aujourd'hui, il est à 60 $, il était tombé même à 30 $, c'est l'année dernière. Et ce qui fait que la Russie a eu pendant une dizaine d'années suffisamment d'argent pour guérir de cette crise économique et retrouver une forme d'optimisme. et d'un débat aussi, pour retrouver un débat culturel et politique qui a duré quelques années. Et là, on a l'impression quand même qu'il redisparaît, puisque la démocratie est réduite à sa plus simple expression, elle est extrêmement formelle et de façade.
Je lis un passage dans votre ouvrage à la page 83. « La terreur communiste a effacé tous les liens horizontaux entre les hommes » et à atomiser les populations. Le niveau de la solidarité publique dans le pays particulièrement bas, le niveau de la méfiance mutuelle particulièrement haut. Alors là, c'est ce qu'exprime Arseni Roginski, d'une des personnes que vous avez interrogées, historien, chercheur, militant, défenseur des... On en parlera de toute façon. Y a quand même peut-être cette méfiance les uns des autres. On comprend, parce que c'était ils ont vécu dans des dictatures, une forme de dictature.
Parmi mes 12 interlocuteurs, je voudrais m'arrêter sur Roginski. C'est un homme pour qui j'avais une grande admiration, parce qu'il vient de mourir. Ah. Il est mort d'un cancer il y a quelques semaines. C'est un monsieur, comme souvent... un héros modeste, un héros secret. C'est un monsieur qui est un grand historien. Il se trouve que la Russie a toujours produit beaucoup d'historiens, parce que sans doute était-elle aussi... elle avait besoin de défendre son identité à l'époque soviétique, et c'était, on le sait, une identité qui était assez fausse par bien des aspects. Roginski s'est battu dès cette époque, c'est un des cofondateurs de l'ONG, de l'association Mémorial, qui a pour objectif, qui avait été fondé avec Sakharov, avec Ludmila Alexeyeva, qui est dans ce livre aussi, et qui a pour but d'empêcher que ça recommence, tout simplement.
Et d'ailleurs, il parle de Solzhenitsyn, entre autres.
Hein, bien sûr, l'archipel du Goulag, le premier Goulag. C'était dans les îles Solovki, au nord d'Arkhangelsk, dans la mer Blanche. Et Roginski était quelqu'un d'extrêmement admirable et courageux. Il est allé lui-même en camp. Son père...
Quatre ans.
Oui. Son père, et c'est là qu'il m'expliquait que c'est comme ça qu'est née sa vocation d'historien, quand il était enfant, a été arrêté par les bolcheviks. Son père était directeur, ingénieur électricien d'une centrale électrique près de Saint-Pétersbourg. Et il a été arrêté, puis comme la centrale électrique ne fonctionnait plus, on l'a relâché au bout de quelques semaines, puisque ça posait des problèmes pour les bolcheviks. Il est revenu à la maison, il a retrouvé son père, c'était la joie. Encore une fois, c'est un enfant qui parle. Il essayait de mettre ses souvenirs honnêtes, c'est pas toujours facile quand ce sont des souvenirs d'enfant. Mais bref, et son père a été arrêté une deuxième fois, puis là ça a été définitif. Il est allé en camp, il a été fusillé, sa famille a été expulsée de Saint-Pétersbourg. Il a souffert beaucoup, comme beaucoup de familles, comme énormément de familles russes, comme une majorité de familles russes.
Oui. Lui, son interprétation, il dit que le goulag, ça permettait, en utilisant le travail d'esclaves, ça permettait la réalisation de tous les chantiers.
Bien sûr.
Vous dites que c'est quand même une épuration politique, peut-être les deux finalement.
Oui. Enfin, c'est parfois totalement incohérent. C'est ce que dit Roginski, parce que ses travaux sont denses et parfois très complexes. Et on ne comprend pas pourquoi. Certaines responsables du Parti communiste dans certaines régions recevaient un téléx de Moscou avec ordre de liquider 1000, 2000, 5000 personnes, 300 personnes là, ou un tel et un tel. On ne savait pas pourquoi. Mais c'était comme ça, et on exécutait les ordres. Et tout ça a conduit, effectivement, dès que quelqu'un partait en camp et était exécuté, à récupérer ses biens. En général, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque communiste, mais récupérer sa place, prendre sa place quelque part dans la hiérarchie, dans l'administration, une place peut-être dans une entreprise ou dans un organisme, et mettre à sa place, donc, quelqu'un qui était plus fidèle à Staline. Ça, c'est l'époque de la Terreur Rouge. Mais en fait, avant la Terreur Rouge et après, ça a continué aussi. Les goulags se sont arrêtés qu'avec vraiment la fin de l'URSS.
À un moment donné, vous notez une forme dans la population, une forme de passivité, de soumission. Alors, moi, je me suis dit, c'est sans doute lié à toutes ces souffrances du passé qui gravées dans les mémoires, puisque vous le dites, dans toutes les familles, il y a des choses de ce genre. Donc, effectivement, on se méfie, et puis on se on n'a pas envie de se retrouver. Enfin, ils se sont pour la plupart retrouvés en prison, mais enfin, quand même.
Mais c'est le paradoxe des Russes. Les Russes sont des gens extrêmement attachants parce que, d'abord, ils sont chaleureux, ce sont des amis merveilleux, ils aiment rire, chanter.
Généreux, partager.
Généreux, oui. Aiment partager, s'embrasser. Et puis, en même temps, ce sont des gens qui ont souffert. Mmh. Et qui continuent de souffrir.
Et qui sont marqués par ça.
Et ils sont fatalistes parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est assez éclairant. Je lisais récemment des analyses sur les révoltes politiques depuis 2011-2012. Vous vous souvenez quand il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues de Moscou qui protestaient contre les fraudes électorales et contre l'élection de Poutine. Plus personne n'y va.
Ouais.
Les gens disent souvent, mais à quoi ça sert? On a essayé, on a fait 1, 2, 5, 10 manifestations, ça sert à rien. Donc ils sont parfois découragés. Et ces gens, si prompts à la joie, au plaisir, si prêts à exprimer leur chaleur et leur bonheur, d'un seul coup, on les retrouve abattus et résignés.
Oui, oui. Vous notez aussi, et c'est là où on réalise quand même le taux de désinformation, vous parlez de l'effet qu'a eu le rapport Khrouchtchev sur la population. Ça aussi, finalement, je pensais à cette personne qui était sans doute un de vos amis historiens. Comment pouvait-il travailler historien alors qu'il y avait tellement de choses cachées ?
Ah bah justement, à l'époque, quand Roginski travaillait comme historien pendant la période soviétique, il était aussi prof, il avait beaucoup de mal à faire son travail. Très vite, il évitait évidemment d'accéder, enfin plutôt de s'exprimer sur certains éléments qui pouvaient trop fâcher le pouvoir, mais parfois c'était son travail de le faire, donc il le faisait sans crainte. Et c'est comme ça qu'il avait des ennuis, qu'il s'est retrouvé expulsé, interdit de travailler à un moment donné, arrêté, emprisonné, en camp, envoyé en camp. C'est quelque chose qui est très difficile, mais ces gens qui combattent cette situation essaient malgré tout de faire passer le message. La plupart d'ailleurs, Alexeïeva est une dame aussi qui a 92 ans aujourd'hui, qui est une héroïne du combat des droits de l'homme. Et bien, elle a été communiste, oui. Elle y a cru, elle n'y croit plus. Et elle l'a payé très, très fort de mettre en doute le discours dominant.
Alors, vous parlez de ces deux personnes-là, donc Arseny Roginski et elle. Je me dis, quel courage. Mais toi, avant tout, j'aimerais que vous parliez de ces 12 personnes. Et accepteriez-vous de lire un extrait de votre ouvrage? Ils vous présentaient, ils sont donc 12, peu connus ou très célèbres. Vous êtes d'accord?
D'accord. Alors, ils sont...
à droite, en haut.
Ils sont donc 12, peu connus ou très célèbres, dissidents audacieux, conservateurs convaincus, nostalgiques du socialisme soviétique, zélateurs du régime actuel, amoureux de la liberté, russes, biélorusses ou ukrainiens. Ils ne se présentent pas comme des acteurs, mais d'abord comme des témoins. Ils expliquent à quel point les mutations de la Russie ont commencé par un événement parfois insignifiant, parfois extraordinaire. Ils disent leurs réactions, leurs passions, et quelques-uns ne parviennent jamais, mais vraiment jamais, à se libérer du conditionnement culturel ou propagandiste dont ils demeurent captifs.
Voilà, oui. Alors, on va parler de certains, pas de tous. Évidemment, ils sont 12 et ce qu'ils disent est assez dense et mériterait plusieurs émissions. Mais tout d'abord, nous faisons une pause musicale.
Bonjour. Сколько лет я иду, но не сделал им. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом. Долгожданная даль. Черные
фару соседних ворот. Люди, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела всю жанре. Родина, еду я на родину. Пусть кричат уродина, а она нам нравится. Спящая красавица, сволочи доверчива. Государственных шлюх. Боже, сколько веры в руках отставных палачей. Ты не дай им опять закатать рукава. Ты не дай им опять закатать рукава. Суетливых ночей. Черные фары соседних ворот. Лички, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина.
D'auteur Monique Fauché.
Marc Crépin, vous connaissez ce groupe que nous venons d'écouter?
Oui, c'est la scène rock russe.
Ça décoiffe, hein?
Oui, oui. DDT, ça déménage. C'est Yuri Shevchuk qui chantait, qui est le patron de ce groupe. Et c'était, je pense, dans un concert à Saint-Pétersbourg il y a une dizaine d'années, au début où il commençait à être célèbre. Et enfin, lui-même, plus ancien que ça, lui. Et c'est un type qui est vraiment très aimé, qui a de très belles chansons, d'un très beau répertoire. Et cette chanson s'appelle La Patrie, Radinia. Et La Patrie, c'était tout simplement une chanson qu'il voulait dédier à son pays, mais sans aucune préoccupation nationaliste. Et ça a été récupéré après par les nationalistes, notamment poutiniens, en disant voilà, c'est le chanteur qu'il nous faut, un peu comme à une époque où il y avait ceux qui chantaient bien, ceux qui chantaient mal, ceux qui parlaient bien, ceux qui parlaient mal, selon qu'on était où pas pour le régime.
D'accord, d'accord. Alors, revenons, Marc Lépin, puisque nous parlons de votre ouvrage intitulé « Métamorphose de la Russie depuis 1953 », il s'agit de 12 grands témoins qui racontent certains faits. Donc, c'est une forme de kaléidoscope, et puis l'ensemble fait quelque chose, effectivement, qui nous donne à réfléchir. Ces 12 personnes que vous avez choisies, est-ce qu'il y a eu des refus ?
Pas réellement de refus. J'ai eu deux problèmes. Il y a deux personnes que j'aurais voulu mettre là-dedans. Je ne sais pas à la place de qui, d'ailleurs. La première, c'est Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature 2015, qui est biélorusse, mais qui vit en Allemagne ou en Italie. Enfin, en ce moment, elle est en Allemagne. Notamment parce qu'elle a beaucoup travaillé avec la même technique que j'employais, c'est-à-dire par enquête et interviews successives, en essayant de rendre au plus près la pensée des autres, de ceux qui ont vécu des moments difficiles. Elle a fait plusieurs livres extraordinaires qui lui ont valu le prix Nobel, notamment Les cercueils en zinc sur les retours des cercueils de la guerre d'Afghanistan, et puis La supplication sur Tchernobyl, les gens qui ont subi la catastrophe au moment où ils l'ont subi.
Là, une de vos personnes, pardon, en parle, on y reviendra.
Oui.
Alors,
Il y a aussi un autre que j'aurais bien aimé interviewer, malheureusement, il a été empoisonné. Mystérieusement, on empoisonne parfois beaucoup les opposants en Russie.
C'était en quelle année, ça ?
C'était il y a un an et demi.
Il y a beaucoup d'opposants qui disparaissent comme ça ?
Il y a des opposants qui ont des problèmes, oui. Il vaut mieux qu'ils partent quand ils sont trop radicaux comme opposants, ou alors ils vont en prison. C'est ce qui se passe avec Navalny en ce moment, on a transformé sa prison, ses peines de prison en prison ferme, mais ça l'empêche de se présenter contre Vladimir Poutine à la présidentielle. Vladimir Karamurza, qui est un journaliste, brillant journaliste, qui est issu d'une vieille famille aristocratique d'ailleurs, tatar, anobli par les tsars, est un intellectuel brillant qui défendait les intérêts de Rodorkovsky, vous savez, l'oligarque qui voulait faire de la politique, qui a passé lui-même 10 ans en prison, maintenant il est réfugié à Londres.
Et est-ce que ces entretiens avec vous-même ne les ont pas mis en danger ?
Ce livre est lu essentiellement en France, pas en Russie.
Ouais.
Et généralement, les autorités russes restent totalement indifférentes à ce qu'on peut dire d'elles à l'extérieur.
D'accord.
Le problème, c'est lorsqu'on en parle à l'intérieur, et encore, on peut parfois dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, comme on veut, mais enfin, bon, on peut avoir des ennuis d'une autre façon. Andrei Kourkov, l'écrivain ukrainien, l'auteur du Pingouin, par exemple.
Oui, qui est venu dans cette émission.
Que j'ai aussi interrogé. Andrei ne peut plus vendre un seul livre en Russie, ça lui est interdit. Pourtant, le Pingouin n'est pas un livre politique. Mais c'est comme ça, il a pris parti. Oui. Pour Maïdan, en faveur de Maïdan et contre la Russie, donc il est puni.
Alors, ce qui est étonnant dans votre ouvrage, c'est de voir que les gens qui faisaient partie de l'appareil politique pratiquent toujours la langue de bois sur le passé et ils sont formatés et ils attendent beaucoup de Poutine.
Oui, encore une fois, je pense que c'est une question de génération. Déjà, les jeunes qui arrivent maintenant aux commandes, au pouvoir, qui ont entre 20 et 35 ans, on va dire...
Ils n'ont pas connu Staline.
Non, ils sont totalement indifférents à ce qui s'est passé au communisme. Ils se moquent royalement de l'Union soviétique, ça ne les intéresse pas. Ils sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe dans la Silicon Valley. Ils ont envie d'aller à Stanford ou à Boston, à l'université.
Européens, quand même ? Parce que vous dites qu'il y en a pas mal qui se situent dans l'Europe, vraiment.
Oui. Beaucoup plus qu'à l'Est, en tout cas.
Parce qu'il y a quand même, alors donc, des gens... Alors, ce sont des anciens, évidemment, mais qui sont nostalgiques de Staline.
Pour revenir à ça, effectivement, ce sont des gens que j'ai interrogés, qui doivent tous... L'Union soviétique avait ses charmes aussi. Ça n'était pas un enfer permanent, puisque nous, à l'Occident... en Occident, on était aussi conditionnés par la propagande occidentale quand on regardait l'Union soviétique. Peut-être moins que...
Enfin, du temps de Staline, c'était quand même réel.
Oui, ça, c'est les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et même un peu après, mais jusqu'à sa mort, en tout cas 53. Mais il y a beaucoup de personnes plus âgées qui étaient enfants ou qui sont nés tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, certains d'entre eux, qui ont bénéficié de l'ascenseur social soviétique.
Oui, c'est ça.
Afanassiev.
Très souvent, ça revient, oui.
Oui, qui est cosmonaute, rend hommage, et il m'explique que...
Ses parents étaient paysans.
Voilà. Dans un système libéral, il aurait repris la ferme de ses parents. Dans un système soviétique, il a pu accéder à l'école, il a pu faire des études.
Oui.
Il est devenu pilote, pilote d'essai.
Plusieurs le mentionnent, ça. Oui,
oui, il y en a quelques-uns qui disent ça. Et ils rendent hommage à un système, à cette partie, cette activité du système. Ils ne sont pas dupes. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que je suis journaliste, je suis un journaliste étranger... Et des dizaines et des dizaines d'années de propagande leur ont expliqué que les étrangers en général et les journalistes en particulier sont des gens qu'il faut fuir et vis-à-vis de qui il faut être hostile. Et donc, on peut parler, on peut discuter, les approcher.
Mais ils ne vont pas se livrer.
C'est pour ça que la langue de bois, si caractéristique du discours communiste, prend le dessus. Ça leur permet de ne pas s'engager, de ne pas prendre de risques.
Dites-moi, Marc Crépin, vous avez vécu également aux États-Unis, où vous étiez correspondant permanent.
Oui.
Ça ne vous a pas donné un air suspect aux yeux des Russes?
Non. Il y a beaucoup de Russes qui vont aux États-Unis, beaucoup de Russes depuis l'effondrement de l'URSS. Hein, la Russie est un pays sur le plan économique plus libéral que la France, certainement. Hein. Pas du tout sur le plan des autres libertés civiles ou politiques. Mais les États-Unis sont considérés, étaient considérés dans les années 90 comme un pays admirable par les Russes. Ils n'avaient qu'un rêve, c'est faire comme eux ou aller aux États-Unis. Posner, par exemple, organisait des émissions, que j'ai aussi interrogées, des émissions en direct entre Seattle, la côte ouest des États-Unis, et Moscou, ou même Vladivostok, en direct par satellite, où il y avait des populations, des représentants des populations des deux pays, en plateau, qui échangeaient, qui apprenaient à se connaître, qui discutaient en anglais ou avec des traducteurs quand ils parlaient russe. C'était des émissions extraordinaires. Les gens avaient soif de se connaître, de se parler. Ça, on est dans les années 90. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Encore une fois, la terrible épreuve des années 90, la pauvreté, l'effondrement de l'économie, la crise, c'était épouvantable. Et beaucoup de Russes ont assimilé la démocratie à cette catastrophe, à cet appauvrissement.
Ils en veulent beaucoup à Gorbatchev.
À l'époque, ils se sont mis en vouloir non seulement à Gorbatchev, mais aussi aux États-Unis. Et là, on arrive à un système, depuis que les idées hyper-nationalistes et très conservatrices du régime actuel s'expriment, c'est de la propagande, c'est plus de l'information. On explique tous les jours aux Russes que les États-Unis sont une menace, que l'OTAN est à leur porte, etc. etc. Notamment dans les périodes de crise, c'était le cas avec l'Ukraine, c'est le cas avec la Syrie. Les Russes n'ont aucun choix en matière d'information, ne bénéficient d'aucun débat. Il y a une parole, un discours unique, qui est celui qui soutient les initiatives du pays et du pouvoir. Et actuellement, effectivement, c'est plutôt hostile aux États-Unis. Depuis quelques années, c'est comme ça.
Mais c'est intéressant, justement, de lire un peu les témoignages de ces gens. Alors, les nostalgiques de Staline, qui quand même les a débarrassés d'Hitler, ça, je crois que ça compte pour eux. Les nostalgiques de l'URSS, où on vivait... Et il n'y avait pas cette pénurie économique dont vous avez parlé. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comme leur regard, leur interprétation. Et on se dit peut-être que nous aussi, nous avons quelques leurres. Hein. Par exemple, à un moment donné, il y a un général que vous interviewez qui parle de l'agression fasciste de l'OTAN.
Oui, absolument.
Ouais.
Bah, c'est un vieux de la vieille, lui. Hein. Il vit dans un système, un nouveau système.
Et il est droit dans ses bottes, hein, pour le coup.
Oui, mais avec une immense nostalgie soviétique. C'est un général qui est aujourd'hui prof à MGIMO, c'est un peu l'ENA, une sorte d'ENA Sciences Po russe, près de Moscou. Et il enseigne les thèses autour du complot. la Russie est l'objet de est plutôt la cible de différents complots organisés par les Occidentaux.
La guerre du Golfe et la Yougoslavie, ça, il a une interprétation très personnelle.
Il faut savoir qu'il était aussi, il était jeune officier à la tête d'une unité qui a envahi Prague en 68.
Oui, d'accord.
Et il trouve ça très bien encore aujourd'hui.
Oui.
Et donc c'est quelqu'un qui a ces idées-là, mais il y en a partout en Russie, et il faut les écouter aussi, en tout cas il faut les entendre d'une certaine façon, il faut savoir qu'ils existent, et pourquoi ils s'expriment comme
ça. Et ils veulent retrouver la grandeur de la Russie, et c'est ça, Poutine est accueilli parce qu'il savait le tsar de toutes les Russies, il se présente comme tel.
L'annexion de la Crimée a été l'occasion d'une immense opération de propagande. Il y avait des manifestations sur la place Rouge le soir, le matin. Après, ça a été le premier anniversaire de l'annexion. Et là, comme par hasard, les élections présidentielles ont lieu le 18 mars, anniversaire de l'annexion de la Crimée. Et donc, ces opérations de propagande consistaient à rassembler énormément de gens. On donnait l'ordre dans les administrations, l'éducation nationale, aux profs, aux enfants, on envoyait comme ça dans la rue des milliers de gens avec des panneaux, des pancartes, des banderoles qui prenaient à l'entrée de la place Rouge, qui étaient préparées à l'avance, à la gloire de Poutine, à la gloire de l'annexion de la Crimée, etc. etc. Et on les faisait manifester. Ensuite, les médias, qui sont tous officiels, à part quatre qui sont indépendants aujourd'hui en Russie, retransmettaient ces images, ces discours, analysaient ce qui se passait, avec une seule explication, le peuple, l'immensité du peuple soutient Poutine. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, et soutient l'annexion de la Crimée. Ceci dit, ce discours a porté ses fruits. Il y a réellement une majorité de Russes qui soutient l'annexion de la Crimée.
Oui, visiblement. Par exemple, alors vous avez parlé de ce cosmonaute, il parle de la fierté de son pays, choisi parce que fils d'ouvrier. Et très souvent, oui, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils rappellent leur origine modeste et la promotion des gens du peuple. Et c'est vrai, et c'est vrai.
C'est vrai, mais attention, il y avait une autre condition sine qua non.
Il fallait faire partie du parti, justement.
Il fallait être au parti communiste.
Oui.
Sinon, vous n'aviez que très peu de chances d'accéder au concours, d'accéder ensuite au diplôme et ensuite de faire une belle carrière.
Oui. Adule énormément Gagarine. Bon, c'est vrai que ça a été le premier, mais là, alors, c'est un inconditionnel de Gagarine. Il représente la fierté du pays.
Mais oui, mais c'est, comme toujours, le peuple, on le sait, c'est la pire et la meilleure des choses. Et ces gens du peuple se contentent malheureusement d'une forme de connaissance, d'éducation qui a été la leur.
Et restent reconnaissants d'ailleurs.
Et s'arrêtent à l'exploit de l'envol de Gagarine. Mais Gagarine, il faut savoir qu'après,
a mal tourné,
très mal tourné sur le plan moral, éthique. C'est devenu quelqu'un qui s'est mis à boire énormément. Mmh. Bon, vous allez me dire, Yeltsin aussi, et il y a plus d'un Russe ou même d'un Français qui aime picoler. C'est pas la question, mais on oublie toute la vérité autour de Gagarine.
Oui, on ne voit que
est devenu un contre-exemple. Et tout ça, on le cache, on ne le dit pas.
Alors, là, vous donnez la parole aussi à un député. Et là, celui-là parle de la réunification des deux Allemagnes. Et pour lui, ça a été la perte du pouvoir et de l'efficacité soviétique.
C'est un militaire qui parle.
Oui.
Autrement dit, il restitue la doctrine militaire soviétique, de l'époque soviétique. Vous savez que régulièrement, chaque pays met à jour sa doctrine militaire. La France, avec l'emploi ou pas l'emploi de la force, des forces nucléaires, ou comment on va se positionner dans le monde, etc. Alors, récemment, Poutine l'a fait à propos de la Russie. Le militaire dont vous parlez est quelqu'un qui est de la vieille école, qui en est encore à l'époque de la guerre froide, où on disait, voilà, il nous faut absolument être présent. Il y avait énormément d'unités en Allemagne de l'Est. Nous aurons là-bas un bon millier de chars, et s'il en faut, on en aura 5000. Et comme est configurée l'Europe de l'Ouest, on pourra atteindre la côte hollandaise, la côte belge, la côte française en 24 ou 48 heures. C'était la forme de menace, de défi qu'on avait enseigné aux militaires russes de l'époque, enfin russes soviétiques, et on leur expliquait que cette menace, avec à côté évidemment d'autres menaces qui constituaient les forces nucléaires, mais cette menace des forces conventionnelles était quelque chose d'essentiel au maintien de la paix en Europe, parce qu'on avait peur de l'armée rouge, et tant que les Occidentaux auront peur de l'armée rouge, leur disait-on, il n'y aura pas de guerre. Et donc, c'est ce qui restitue.
D'accord. Alors, oui, j'en reviens à ce député. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que la déstalinisation a été brutale, et ça a divisé le pays et affaibli. Et souvent, ces gens-là, ceux-là, donc les plus anciens, on a le sentiment qu'ils ont été humiliés, dans le fond.
Oui, enfin, l'humiliation est surtout venue après l'effondrement de l'URSS. Et on peut penser qu'ils n'ont pas tort, parce que du jour au lendemain, on a laissé un pays et un peuple et des peuples. Il y a 194 nationalités en Russie. Ça peut varier.
194,
oui. Et presque autant de langues. Et on parle essentiellement le russe.
Vous voulez dire nationalité 194 en URSS?
Oui.
Oui, d'accord.
Enfin, dans l'ex... Non, dans la Russie d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Mais vous savez, il y a énormément d'ethnies...
Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord.
...qui correspondent aux ethnies indiennes en Amérique du Nord.
Mm-hmm.
Ce sont d'ailleurs la même origine.
Oui.
Il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années, on sait que les Américains sont passés par le détroit de Bering, les peuples de la Sibérie sont passés par le détroit de Bering pour rejoindre l'Amérique du Nord. Ce sont les mêmes origines ethniques, et il y en a beaucoup de l'Asie à la Sibérie jusqu'à l'ouest de la Russie, ça fait beaucoup.
D'accord.
Donc pour revenir à ce qui se passait, c'est que dans la diversité de ce pays, on essayait de trouver le moyen de survivre. On n'a jamais constaté que le problème de l'évolution, du développement du pays, c'était la structure de l'État elle-même, c'est-à-dire le système soviétique, avec un parti unique, une direction unique, qui bloquait tout le monde mentait à tout le monde, on mentait sur l'économie, on mentait sur les statistiques, on mentait sur
propagande et désinformation.
Voilà, c'était comme ça tout le temps. Et les Russes sont tombés de très haut quand ils ont découvert ça. La première étape de cette découverte, c'était la déstalinisation avec le rapport du 20e congrès en 1956. Ils y ont cru parce qu'on leur disait d'en croire une partie. Mais vous savez, Khrouchtchev n'a dit qu'une partie de la vérité à l'époque. Il n'a pas tout dit. Il n'a pas été aussi brutal que ça. Comme dans le film Le Guépard, la mafia a besoin que tout change pour que rien ne change, pour qu'elle préserve son pouvoir sur la Sicile, en l'occurrence. Eh bien, le Parti communiste pensait, Khrouchtchev, qui était un grand ami de Staline, il ne faut jamais l'oublier, pensait Khrouchtchev, il faut lâcher du lest, il faut dénoncer un certain nombre de choses pour continuer à diriger le pays. Voilà, c'était leur point de vue. Effectivement, ils ont caché aussi beaucoup de choses, ils en ont révélé pas mal. Mais c'est Gorbatchev qui, à son tour, en arrivant au pouvoir, a vu l'étendue des dégâts, et comme c'était un type sincère et ambitieux, et que Yeltsin l'a rejoint là-dessus, mais Yeltsin, lui, était animé par une véritable haine du système communiste. Il s'est passé ce qui s'est passé. Gorbatchev a achevé l'effondrement de l'URSS. Et Yeltsin a pris
le pouvoir. Sur le plan économique,
il
y a eu un problème économique. Quand même.
Oui, mais de toute façon, tout n'était que mensonge.
Oui,
plus rien ne fonctionnait.
Même sans Gorbatchev, ça se serait effondré à un moment donné.
Oui, oui, assurément.
Marc Crépin, une pause musicale et nous reprenons.
Выходила на берег Катюша на высокий. высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила про степного сизого орла,
про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, ох, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку родную, она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, а плыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.
Парole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Marc Répin et nous parlons de ces métamorphoses de la Russie depuis 1953, date de la mort de Staline. Et Dieu sait qu'elle a évolué, cette Russie, mais finalement, il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup d'allées et venues, pas vraiment de démocratie. Et pourtant, Gorbatchev et Eltsine ont essayé, ont tenté quelque chose.
Yeltsin est parti directement dans une direction opposée, ou plus radicale en tout cas, que celle de Gorbatchev. Gorbatchev, lui, avait un but, réformer le système,
oui,
pas du tout le changer.
Oui, oui.
Yeltsin, lui, a voulu le changer, et, y compris la Constitution. Il faut savoir que Yeltsin est quand même l'homme, il est devenu président, ce poste a été créé pour lui, et l'homme qui a réellement réformé la Russie. Alors, avec toutes les souffrances qu'on évoquait tout à l'heure, mais ce pays a eu une nouvelle constitution, a eu un nouveau système de fonctionnement, l'État a travaillé autrement, on a essayé de supprimer tout ce qui était inutile dans le fonctionnement des ministères, des administrations, etc. On a ouvert l'économie, on a tout privatisé, c'est là que ça a posé des problèmes,
oui.
Parce que ça s'est fait dans des conditions parfois aberrantes, et effectivement, ça a entraîné la souffrance des Russes à cette époque-là. Mais c'est vrai que les changements se sont imposés d'eux-mêmes dans un système à bout de souffle à la fin des années 80.
Ça ne pouvait pas perdurer.
Non, ce n'était pas possible. Il y avait encore la guerre en Afghanistan, dont on avait remarqué qu'on y envoyait pas mal de jeunes des républiques périphériques, asiatiques, des gens qui n'étaient pas des Russes comme les autres, on va dire, qui n'étaient pas des Soviétiques comme les autres, devrais-je dire. Ça rejoint d'ailleurs ce qui se passait pendant la guerre du Vietnam, où on envoyait comme chair à canon les Noirs, ou que dire aussi des tirailleurs sénégalais qui étaient en France pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui se faisaient tuer aussi de la même façon. C'est une constante dans les guerres,
oui.
Ce sont les plus pauvres, ce ne sont pas les familles ni les communautés qui sont au pouvoir.
Même dans la guerre de 14-18
voilà.
D'ailleurs,
voilà.
Effectivement. Alors, par exemple, là, je prends les propos de Sergei Bundtman. Bon, on prononce à l'anglaise.
Bundtman.
Journaliste, traducteur et cofondateur de la station de radio Écho de Moscou, qui dit « Au seuil des années 90, Gorbatchev a déjà conforté bien des mutations économiques et politiques. Il a entamé la libéralisation de la société, inspiré des pratiques démocratiques occidentales et il cherche à rétablir les libertés individuelles. Sans perdre de temps, il a mené d'une main de maître ses réformes de restructuration et de transparence. » Oui, Perestroïka et Glasnost. « Son objectif n'est pas alors de se défaire du socialisme, mais plutôt de l'adapter à son époque, ce que vous venez de dire. Il a mis un terme à la guerre d'Afghanistan. » réhabiliter les dissidents par centaines, annoncer la reconstruction du pays. Bref, il a déclaré la guerre à la gérontocratie communiste et au dogmatisme du parti. Il avait fait quand même pas mal de choses déjà, lui.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'était pour maintenir le système. Il faut que tout change pour que rien ne change.
Est-ce que ce n'était pas le plus sage, en définitive? Vous savez, les révolutions, elles mettent du temps.
Oui, c'est un débat qu'on pourrait toujours avoir, que les historiens ont d'ailleurs sur l'évolution de la Russie. Gorbatchev est détesté d'une majorité des Russes.
Alors qu'il est aimé des Occidentaux, il a été aimé des Occidentaux.
Parce qu'on leur a expliqué qu'il était responsable de tous leurs maux. Bon, il y a une partie des Russes aussi qui ont compris que, heureusement qu'il était là, parce que sinon ils vivraient encore aujourd'hui dans un système très, très peu adapté à l'époque, au XXIe siècle. Mais c'est vrai que Gorbatchev a essayé de faire des choses. D'ailleurs, la radio Écho de Moscou est un des médias qui était né à l'époque, en 89, à la fin de l'ère Gorbatchev. Et c'est tout de suite devenu une radio qui a eu un énorme succès. C'est d'abord à Moscou, mais elle n'aimait pas qu'à Moscou, elle est dans la partie ouest de la Russie, elle est un peu partout. Et on lui ferme régulièrement tous les ans des émetteurs pour un prétexte quelconque, puisque c'est une radio indépendante et d'opposition. Mais enfin, elle est là et elle doit beaucoup à Gorbatchev. D'ailleurs, c'est un ami de la radio, on l'y écoute souvent. Et il n'y a pas que cette radio-là, il y a d'autres médias. Je vous disais, il reste quatre médias indépendants aussi.
Alors, ça veut dire que, pardon, je vous interromps, ça veut dire, il ne nous reste plus beaucoup de temps, ça veut dire que le chapeau là, vient à nouveau de se poser, est en train d'écraser à nouveau la population.
Alors, depuis 2000, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin, il est très clair que le pouvoir politique, c'est-à-dire l'entourage de Poutine, l'administration présidentielle, accessoirement le gouvernement, mais le gouvernement est un petit peu fait ce qu'il peut et il assure des tâches subalternes. Donc le pouvoir a pris le contrôle de l'économie, toute l'économie. Ce qui ne plaît pas beaucoup aux entreprises étrangères qui voudraient travailler avec la Russie, parce qu'elles préfèrent travailler dans un système plus simple et plus libéral, a pris le contrôle de toute la communication, de tous les médias, de toute l'information. Oui. Personne n'en réchappe. A pris le contrôle du fonctionnement de la démocratie. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est encore une démocratie? Certains parlent de démocrature, dictature, oui. Démocratie. Oui. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une forme de démocratie, on n'est pas libre de faire ni de dire ce qu'on veut.
Marc Crépin, une dernière question. Il se détache de l'Europe. Or, la population avait l'air d'être attachée à l'Europe.
Moi, je reste convaincu que les Russes sont d'abord européens. Ils regardent d'abord vers l'Europe. Ils sont extrêmement cultivés en général, enfin en moyenne on va dire, pour autant que ça peut être juste de dire, de parler de moyenne, de tendance pour tout un peuple, mais ce sont des gens qui connaissent bien l'Europe, ils connaissent très très bien la France, ils connaissent la littérature française, la culture française, et pas seulement. Et les Russes regardent probablement plus à l'ouest qu'à l'est, même si Vladimir Poutine promet des alliances mirifiques avec la Chine.
D'Asie. Marc Crépin, un grand merci pour cet éclairage vraiment très très intéressant. Alors je rappelle qu'il s'agit dans la collection des témoins racontent, c'est ça la collection
Métamorphose,
d'accord. Alors là c'est Métamorphose donc, de la Russie depuis 1953, paru aux éditions Atelier Henri Dougier. Voilà, 12 grands témoins donc, qui racontent. On n'a pas parlé de Tchernobyl, enfin on n'a pas parlé de beaucoup de choses encore. Merci encore.
Une autre émission, voilà. Merci beaucoup.